Il était de Marseille, il se voulait de partout, il fréquentait à armes égales la politique et la littérature. Gaston Defferre avait élevé l'idée de notable à sa plus haute altitude. Il fait partie, à cette heure, d'un monde disparu. C'était en 1972.
Gaston Defferre, vous avez dit « défaire » et cela m'a un peu étonné.
Oui, on doit dire « défaire » puisqu'il y a deux F. Mais j'avoue que depuis mon enfance, depuis le lycée, tout le monde m'appelle « Defferre ».
Nous sommes aujourd'hui, non pas à Paris, mais en direct depuis la station de Marseille. Et je vous remercie, monsieur le maire, de m'accueillir dans votre ville. Je suis heureux, moi, de vous recevoir à l'ORTF. Je ne voudrais pas présenter un homme que tout le monde connaît, mais vous me permettrez tout de même de dire que vous êtes licencié en droit, diplômé d'études supérieures politiques.
Oui, j'ai passé ce diplôme un peu tard.
À quel âge ?
Je devais avoir 26 ou 27 ans. J'étais déjà militant socialiste et j'ai voulu savoir ce qu'était le collectivisme.
Vous l'avez su ?
Oui.
Vous êtes avocat, vous êtes journaliste, vous êtes directeur du Provençal. Vous avez été 4 fois ministre, vous êtes député et vous êtes maire de la deuxième ville de France, et vous êtes maire depuis 20 ans. Alors je serais tenté de vous poser cette question, 20 ans, est-ce que ça n'est pas un peu trop?
C'est aux Marseillais d'abord qu'il faudrait le demander. Il semble que, aux dernières élections, ils en aient jugé autrement, puisqu'ils m'ont accordé une majorité encore plus large que dans le passé.
À partir du moment où on est élu, cela veut dire nécessairement que l'on est le meilleur.
Non. Vous savez, je crois que l'élection d'un maire est une élection un peu particulière. On ne choisit pas un maire comme on choisit un député. On choisit un maire parce que on a confiance en lui pour administrer la ville sérieusement, et quand il s'agit d'un socialiste comme moi, pour transformer la ville et la vie. Quand on se présente aux élections municipales, c'est à la tête d'une liste où il y a de nombreux candidats. Et dans une ville comme Marseille, oui. Divisé en 8 secteurs, entre parenthèses, cette division a été mise sur pied par le gouvernement il y a de cela maintenant 7 ans, pour essayer de me faire battre. Le résultat, c'est que aucun UDR n'a été élu, ni en 65, ni en 71.
Mais vous dites d'ailleurs, je gagne toujours.
Non,
c'est un peu prétentieux.
Non, je ne dis jamais cela, j'ai été battu, pas à la mairie, mais j'ai été battu comme député une fois, en 1958, de 210 voix, et j'ai été battu d'autres fois dans ma vie. Et je veux d'ailleurs dire que la première fois que j'ai été battu, sur le moment, bien sûr, ça ne m'a pas fait plaisir, mais je me suis rendu compte que ça m'a été utile, ça m'a appris quelque chose que je ne savais pas.
Les échecs rassurent.
Non, on ne peut pas dire qu'ils rassurent. Ils apprennent une certaine philosophie, et puis ils vous font voir les choses autrement qu'on ne les avait vues. Vous savez, autrefois, le scrutin était un scrutin proportionnel. Et quand on était tête de liste, on avait peu de chances d'être battu. Si bien qu'étant tête de liste, je me présentais. Comme je suis pessimiste, je pensais toujours que je risquais d'être battu, mais au fond, je ne le risquais pas. Et puis un jour, j'ai été battu, le scrutin ayant changé. Eh bien, ça a été une bonne leçon pour moi.
Vous avez été battu parce que le scrutin avait changé. En tout
oui,
cas,
parce
vous
que
vous avez
changé, puis parce qu'au second tour, des adversaires politiques se sont coalisés contre moi. Au premier tour, j'avais 10 000 voix d'avance. 46% des scrutins, j'ai cru que je serais élu au second tour. Je me suis occupé de mes amis dans d'autres circonscriptions de Marseille. Et puis au second tour, cette coalition hétéroclite m'a fait battre. Sur le moment, j'en ai voulu à ceux qui avaient joué ce jeu un peu malhonnête. Et puis, somme toute, ils m'ont rendu service.
Vous avez beaucoup d'adversaires ?
Beaucoup, oui. C'est curieux, je ne sais pas à quoi cela tient.
Puis vous les entretenez ?
Mais non, je ne les entretiens pas. Mais presque toutes mes élections sont de véritables batailles. Alors, comme au fond, j'aime assez me battre, eh bien, je me bats.
Vous attaquez et vous ne vous défendez jamais.
Je pense
vous
que la meilleure méthode, c'est d'attaquer. Non, j'attends en général qu'on m'ait attaqué.
Si vis passem parabellum.
Il est rare que. Non, je ne prépare pas la guerre. Mais il est rare que j'attaque le premier. Mais quand on m'attaque, je pense que la meilleure défensive, c'est la contre-attaque, voire l'attaque, et une attaque vigoureuse qui peut mettre hors de combat l'adversaire. Alors j'attaque.
À Marseille, quel est l'homme politique le plus célèbre ? C'est Gaston Defferre ou Joseph Comité ?
Il faut demander cela aux Marseillais, je ne serais pas attentieux de ma part de répondre, et je crois qu'il serait plaisant de ma part de dire du mal de Joseph Comité.
Vous pourriez peut-être en dire du bien.
Bah, ça, c'est difficile. Oh, vous savez, c'est un homme sympathique dans le privé. Je suppose qu'il est intelligent, puisque il est professeur...
Je suppose, c'est déjà restrictif.
Il est professeur de médecine. Vous savez, la vie politique est une chose un peu particulière. On peut être intelligent, d'une façon générale, et ne pas avoir de sens politique. Le sens politique est une chose très spéciale. Je ne sais pas si ça s'acquiert. En tout cas, il y a des gens à qui cela fait défaut.
Mais la politique, c'est un métier?
Non, le mot « la politique est un métier », l'expression « la politique est un métier » est une vilaine expression. Non, la politique est une activité. Je ne pense pas que ce soit une activité satisfaisante pour celui qui l'exerce s'il n'a pas une certaine foi. Ce mot peut surprendre dans ma bouche, même s'il n'est pas animé par une certaine passion. Faire de la politique comme un métier, je pense que ça doit être décevant, peut-être même décourageant.
Faire la politique, ce n'est pas toujours une bonne œuvre.
Non, bien sûr, c'est pas toujours une bonne œuvre, puisqu'il faut donner des coups, on en reçoit. Mais dans l'ensemble, par exemple, à la mairie, la politique est une chose assez exaltante parce qu'on voit le résultat de ce que l'on fait. Quand, par exemple, à Marseille, je fais décider par le conseil municipal la construction d'un certain nombre d'écoles, je les vois sortir de terre. Quand elles sont construites, je vais les visiter.
Vous les voyez sortir de terre, mais vous devez demander tout de même la permission à Paris. Mais nous en parlerons tout à l'heure.
Ah ça, toujours et beaucoup trop. Et si vous voulez que nous parlions de ce sujet, je suis tout à fait prêt à le faire.
Et là, nous serions obligés de parler de toute la province.
Bien sûr, de toute la province française qui est soumise au centralisme autoritaire de Paris, qui nous fait perdre du temps, qui nous fait perdre de l'argent, et qui, en réalité, a rétabli une sorte de régime colonial.
Gaston Defer, vous n'êtes pas né à Marseille, et pourtant on vous le pardonne.
Oui, je suis né, par hasard d'ailleurs, à Massillargues. Ma mère était à la campagne chez mon grand-père et elle m'attendait. Le médecin lui a dit qu'il y en avait pour plusieurs jours. Je suis né dans la nuit. En vérité, je suis Nîmois. Je suis Cévenol. Je suis un protestant des Cévennes. Mes ancêtres ont fait des guerres de religion. C'est vrai que les Marseillais m'ont adopté. Peut-être est-ce justement parce que je suis Cévenol et que j'ai cette forme de caractère qui m'a permis de remettre de l'ordre dans une mairie où il y avait beaucoup de désordre, dans un budget qui était en déficit depuis 49 ans, quand j'ai été réélu en 1953. Et je crois que les Marseillais aiment bien cela, quelqu'un qui a suffisamment d'autorité pour administrer leur ville, mais en même temps qui sait les écouter, discuter avec eux, et tenir compte de ce qu'ils disent quand c'est juste.
Vous n'êtes pas un orateur, vous n'êtes pas un intellectuel, mais vous voulez être un administrateur.
Je ne suis pas un orateur, j'avale les mots, d'ailleurs vous allez vous en apercevoir au cours de cette émission.
Non, je dis vous n'êtes pas un orateur parce que vous l'avez dit bien souvent.
Non, mais c'est vrai, je l'ai souvent dit et c'est la vérité. Je ne suis pas un intellectuel, car je considère qu'être un intellectuel, c'est avoir non seulement une très grande culture, mais une certaine tournure d'esprit. Un homme cultivé, un homme érudit, n'est pas pour autant un intellectuel. Un professeur, par exemple, même un professeur de faculté, n'est pas pour autant, à mes yeux, un intellectuel. J'ai beaucoup d'admiration pour les intellectuels. Je pense que les intellectuels sont indispensables dans la vie d'un pays et qu'on doit les respecter, qu'on doit même les honorer. Et que dans la vie politique, ils sont encore plus indispensables, car nous, les hommes d'action, avons besoin d'intellectuels pour avoir des idées. Et si nous adoptons leurs idées, quand nous les mettons en œuvre, pour nous critiquer. Et si nous adoptons d'autres idées, également pour nous critiquer. Et on ne peut avoir ce comportement que quand on n'est pas un homme d'action. Si bien que l'opposition que je fais, c'est entre un intellectuel et homme d'action. Pour ma part, je crois que je suis un homme d'action.
Prenons trois hommes, François Mitterrand, Jean-Jacques Savant-Schreiber et vous. C'est Jean-Jacques Savant-Schreiber l'intellectuel?
Non, pas du tout, absolument pas. Mais alors, Jean-Jacques Savant-Schreiber n'a rien lu. Il ne s'intéresse à rien. Il ne lit pas de romans, il ne lit pas de poèmes. Moi, j'en ai lu beaucoup. François Mitterrand aussi, sans doute encore plus que moi. François Mitterrand lit énormément. Et toutes sortes de choses. Livres d'histoire, littérature, poésie. Il est intéressé par tout. Jean-Jacques Savant-Schreiber, lui, n'est intéressé par rien. Que par ce qu'il fait, c'est-à-dire le journalisme, dans lequel il a brillamment réussi, et la politique. François Mitterrand, lui, n'est pas un intellectuel au sens où je l'entends, puisqu'il s'est consacré à la politique, Il aurait pu être un intellectuel, François Mitterrand. Je crois que Jean-Jacques Chabert n'aurait pas pu être un intellectuel. François Mitterrand aurait pu être un intellectuel, mais il a choisi la politique.
Je crois que vous attaquez encore, là. Vous attaquez Jean-Jacques Savant-Schreiber. Non, il y a un côté sentimental chez vous. C'est un homme qui vous a quitté.
Ah non, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt le contraire, c'est plutôt moi qui l'ai quitté. Mais c'est vrai, je suis sentimental et il m'arrive d'avoir de la peine quand je me sépare de certains amis. C'est peut-être une faiblesse, d'ailleurs, pour un homme politique. Quelquefois, on me le reproche. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Non, il a choisi sa voie, différente de la mienne, après m'avoir suivi pendant un certain temps, comme il avait suivi Mendès France. Maintenant, vous le voyez faire.
Enfin, vous lui devez un peu d'avoir été Monsieur X. Et c'était important dans votre carrière.
À lui, à son équipe. Est-ce lui, je n'ai jamais su si c'était lui qui a eu l'idée de Monsieur X, si c'était d'autres journalistes. C'est en tout cas l'Express.
La question que l'on peut poser, a-t-on le droit d'oublier ses amis?
Même... Je ne les oublie pas, mais voyez-vous, c'est ce qu'il y a de particulier dans la vie politique, c'est qu'à certains moments, on est un peu coupé de ses amis quand on n'a pas les mêmes idées, quand on n'a pas les mêmes conceptions.
C'est injuste.
Non, c'est une des rançons de la vie politique. Il faut l'accepter ou alors il ne faut pas faire de politique. À un certain échelon, beaucoup plus élevé que celui auquel je me trouve, il y a ce qu'on appelle la raison d'État. Mais l'homme qui a le mieux illustré cela dans les temps modernes en France, c'est De Gaulle. Pour lui, la raison d'État comptait plus que tout. Eh bien, il était prêt à sacrifier, pour la raison d'État, ses amis les plus chers.
Un grand homme politique ne doit pas avoir de cœur.
Je crois qu'il a du cœur, qu'il a de la peine, mais qu'il doit passer outre. Et qu'il doit faire, par priorité, ce qu'il croit devoir faire pour des raisons politiques ou, s'il est au pouvoir, pour des raisons d'État.
Gaston Defferre, vous ne pourriez pas...
Qui ne veut pas dire qu'il doit être insensible, bien au contraire.
Vous ne pourriez pas ne pas être un homme politique. C'est votre virus, c'est votre drogue.
C'est très difficile à dire. Je suis militant socialiste depuis très longtemps, depuis 1933. Avant la guerre, j'ai eu l'occasion d'être candidat à des postes mineurs. J'ai refusé, j'étais déjà militant. Puis la guerre, la résistance sont arrivées, je me suis trouvé porté à la mairie par la résistance. Et j'ai commencé une vie politique, je ne veux pas employer le mot carrière car je n'aime pas ce mot.
Mission alors?
Non, c'est trop prétentieux, mission. Non, une vie politique, tout simplement, qui me plaît beaucoup, qui est une vie animée, qui m'a fait connaître des... quantité de gens très intéressants, certains même passionnants, que je n'aurais sans doute pas connus sans cela. Puis la mairie m'a donné l'occasion de réaliser un certain nombre de choses, certains ministères aussi. Alors, je peux dire que c'est une vie qui me plaît. Maintenant, j'ai été avocat dans le passé, et j'aimais beaucoup le métier d'avocat. J'aurais pu continuer ce métier, je n'aurais certainement pas été malheureux.
Vous pourriez l'exercer demain, ce métier d'avocat?
À condition de ne plus être en politique, parce que je considère qu'il y a incompatibilité entre les deux fonctions. En tout cas, il y a une certaine gêne et à exercer les deux. Quand j'étais jeune avocat, il m'est arrivé de plaider contre des avocats très connus de l'époque, du type de Monzy, qui était tantôt garde des Sceaux, tantôt simple député, plaidant comme avocat. Et j'avais été choqué par leur comportement. Je m'étais juré que le jour où je serais en politique, si un jour je l'étais, je ne plaiderais plus. C'est ce que j'ai fait. Au lendemain de la Libération, je me suis arrêté de plaider, je veux dire que je me suis arrêté avant, puisqu'en 1942, les Allemands étant venus pour m'arrêter, j'ai quitté Marseille, mais j'ai refusé de continuer à plaider après la Libération.
L'engagement politique vous a rendu prisonnier?
Non, il ne m'a pas rendu prisonnier, en ce sens que dans le Parti Socialiste, nous avons une très grande liberté d'expression, et même une grande liberté d'action. À l'intérieur de mon parti, j'ai été longtemps et souvent minoritaire. Je ne peux pas dire que ça m'a été agréable, mais je disais ce que je pensais. Bien que je n'ai jamais eu le sentiment d'être prisonnier.
Vous m'avez dit tout à l'heure, et vous avez commencé votre phrase de la sorte, « Je suis protestant », ce qui veut dire que c'est important pour vous. Un homme politique ne dirait pas « Je suis catholique ».
Oui, c'est très curieux. C'est en vieillissant que je me rends compte que l'hérédité protestante compte. Que la formation protestante n'est pas seulement une formation religieuse, mais que c'est une formation de l'esprit et du caractère.
C'est un esprit de caste aussi, peut-être.
De l'esprit de minorité. Les protestants sont minoritaires. J'ai été élevé à Nîmes, qui est une ville où il y a beaucoup de protestants, mais où la lutte entre les protestants et les catholiques a été très vive. Si bien que, sans doute, suis-je inconsciemment influencé par cela, et que quand je me trouve en présence de minoritaires, j'ai de la sympathie pour eux. C'est ce qui explique peut-être aussi mon comportement quand j'ai été ministre de la France d'Outre-mer et que j'ai commencé la décolonisation. Peut-être était-ce parce que j'étais protestant.
Gaston Defer, est-ce que vous seriez encore capable de vendre le populaire à la sortie de la messe ?
Oh, certainement. Je l'ai fait quand j'étais jeune, avec un certain esprit de provocation qui me valait des rappels du bâtonnier qui me convoquait le lundi pour me le reprocher.
Vous êtes toujours provocateur.
Et je suis moins. Je suis resté un peu, c'est vrai.
Vous vous plaisez dans ce climat ?
Non, pas dans le climat de provocation, mais j'aime bien la bataille et la discussion. Et à partir du moment où la bataille est engagée, bien, on se sent à l'aise.
Gaston Defer, vous êtes partout à la fois. Vous êtes à la mairie, très tôt le matin, me dit-on. Vous êtes omniprésent au journal. Et je serais tenté de croire que vous ne faites pas confiance. Vous vous croyez irremplaçable.
Pas du tout. J'ai au contraire le sens de l'équipe et de la délégation des pouvoirs. Je travaille beaucoup parce que je fais trop de choses et je me le reproche. Je suis maire, je suis député et président du groupe socialiste et je suis directeur d'un grand journal. C'est trop. J'ai souvent pensé à renoncer à une de mes activités, mais...
Vous ne le ferez jamais.
Je crains de ne pas le faire. L'activité politique, j'y renoncerai sûrement parce que j'ai l'intention de prendre ma retraite politique.
Dans combien de temps ?
Un âge convenable.
Pas en 73.
Non, pas en 73, parce que nous avons une belle bataille à livrer, mais sans doute à la fin du mandat de député de 73. Vous avez tort de dire que je me considère comme irremplaçable, pas du tout. Je passe mon temps à dire que personne n'est irremplaçable, et moi en particulier. Et je délègue beaucoup de pouvoir, et j'arrive à créer autour de moi, aussi bien au journal qu'à la mairie, que dans les ministères où j'ai été, des équipes avec lesquels je travaille dans une atmosphère très agréable, une atmosphère de bonne humeur et souvent même de gaieté. Et je garde avec mes anciens collaborateurs, même quand il y a longtemps que nous ne travaillons plus ensemble, de très très bons rapports, des rapports très amicaux. Ce qui n'est pas le cas des hommes qui travaillent seuls et qui se méfient des autres. Pas du tout.
Et comment êtes-vous alors avec les collaborateurs du Méridional ?
Ce ne sont pas mes collaborateurs. Le Méridional n'appartient pas au Provençal. Le Provençal imprime le Méridional. Et le Méridional est un journal totalement libre. Et si vous le feuilletez, je ne sais pas si ce matin vous avez eu le temps de le regarder, vous apercevrez que je suis fréquemment attaqué par le Méridional. Et voyez-vous, ça m'est utile. Car je pense qu'il n'y a pas d'homme infaillible.
Vous l'avez provoqué.
Et quand, en ouvrant le Méridional, je vois par exemple que telle plage est sale, ou que telle canalisation de gaz s'est rompue, ou que telle canalisation d'eau a éclaté. Eh bien, j'apprends quelque chose et en arrivant à la mairie, je dis, tenez, regardez, il faut voir ce qui se passe là. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ceci? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait cela? C'est une bonne chose d'être critiqué. Vous savez, la démocratie, c'est un bon système.
Vous aimez à être critiqué?
Non, personne n'aime m'être critiqué.
Ça vous permet de combattre.
Mais je considère que c'est utile.
Gaston Defer, êtes-vous un homme comblé?
Le mot est très fort, vous savez.
Vous avez eu une vie très riche, très remplie.
J'ai eu une vie très remplie. Et puis, j'ai une notion de la vie. Je considère qu'on ne peut pas empêcher le temps de passer. Alors, je ne regrette pas d'avancer en âge, alors que je connais des hommes et des femmes qui parlent tout le temps du passé avec des regrets. Ce n'est pas mon cas. Je pense que ce qui est important dans la vie, c'est de bien remplir sa vie. Quand je me retourne et que je regarde ce qu'a été ma vie, je considère que pour ce que je vaux, pour les qualités ou les défauts que j'ai, eh bien, ma vie était bien remplie.
Vous avez l'impression d'avoir beaucoup de prix ?
Beaucoup de ?
De prix, vous me dites, pour ce que je vaux.
Non, au contraire. Je considère que j'ai beaucoup de défauts, beaucoup d'insuffisances. Et que je ne suis pas un de ces hommes à l'intelligence fulgurante, aux verbes qui s'imposent. Il y a des hommes qui, dès leur naissance, ont le sentiment qu'ils sont appelés à jouer un très grand rôle. Ça a été le cas du général de Gaulle, et cela s'est vérifié. C'était le cas, paraît-il, de Disraeli, cela s'est vérifié aussi. C'est le cas d'un certain nombre de nos contemporains, que je ne citerai pas pour ne pas être méchant. Moi, je n'ai jamais eu ce sentiment. Et chaque fois que je me suis trouvé porter un poste important, par les électeurs ou par les circonstances, j'ai été flatté et heureux. Si bien que, quand je dis ce que je vaux, ça a plutôt un sens péjoratif. Je considère que, justement, valant aussi peu, ayant aussi peu de qualité, eh bien, j'ai été, effectivement, sinon comblé, parce que je n'aime pas ce mot, j'ai été, dans une certaine mesure, avantagé par l'existence.
Enfin, faire la somme de ce peu de qualité, c'est une autre forme d'orgueil.
C'est difficile à dire. L'orgueil a bien des formes, bien sûr.
L'orgueil est une qualité,
et sinon, attention. Si quand je me critique, je le fais volontiers, il n'est pas douteux que je l'accepte moins facilement. Si c'était vous qui m'attaquiez ou qui me critiquiez, je vous répondrais, c'est sûr. Encore que vous le feriez, j'en suis convaincu, avec l'humour et le talent que vous avez. Mais quand je suis attaqué dans la vie politique, par exemple, bien sûr, je me rebiffe et je réponds. Mais je réfléchis souvent et je me dis, au fond, ce jugement sévère qui a été porté sur moi est juste. Et cela m'amène quelquefois à modifier mon comportement. Je crois qu'il y a un grand défaut qu'il faut éviter d'avoir dans la vie en général, et pour les hommes politiques en particulier, c'est d'être têtu. On peut être volontaire, on peut être énergique, on peut même être acharné, mais il ne faut pas être têtu. Si on vous démontre qu'on a tort, il faut en tenir compte.
Je me suis aperçu qu'un homme politique n'est jamais fini. Il recommence toujours. Alors comment faites-vous ? Vous avez 62 ans, Gaston Defray.
Non, pas encore. Je les aurai dans quelques mois.
Vous êtes battu deux fois en duel.
Oui.
Une fois avec Bastide.
Oui.
Et une fois avec Ribière.
Oui.
Vous seriez capable aujourd'hui de vous battre une troisième fois ?
Oh, sûrement, oui.
C'est la santé, ça.
Ça, c'est amusant. C'est ridicule.
Ça fait partie du jeu.
Démodé.
Vous êtes le seul à avoir fait ça de ceux qui,
oui,
qui exercent,
oui,
leur pouvoir en ce moment.
Oui, j'ai peut-être eu tort.
Vous saviez que vous aviez raison.
Mais.
Qu'on en parle, en tout cas.
Que voulez-vous, la première fois, je ne peux pas faire autrement que gifler celui avec lequel je me suis battu en duel. La deuxième fois, j'ai sans doute eu tort de m'adresser à lui grossièrement au cours d'une séance de l'Assemblée.
On n'a pas le droit de dire à quelqu'un vous êtes un abruti.
Oui, et quand il m'a demandé si je l'avais vraiment dit, je ne pouvais pas nier que je l'avais dit, puisque c'était vrai. Alors, il aurait été malhonnête de le contester.
Vous l'avez regretté ?
Alors je l'ai reconnu, et comme il me posait la question sur un ton qui ne me plaisait pas, alors, et qu'il me demandait pourquoi, je l'avais dit, je dis parce que je le pense. À partir de ce moment-là, il m'a envoyé ses témoins, l'engrenage avait commencé, et je ne dirais pas que nous sommes allés jusqu'au bout, puisque ça a fini par une maigre effusion de sang. C'est ridicule, c'est démodé, mais il y a des cas où on ne peut pas faire autrement.
C'est votre côté conservateur.
Oui, c'est mon côté mettant un peu enfantin, plutôt.
Gaston Defray, vous êtes du Midi, vous êtes protestant, votre femme est du Nord et elle est catholique.
Oui.
On peut s'entendre ?
Oui, vous savez, ça n'a rien de gênant. On peut parfaitement être protestant et du Midi et s'entendre parfaitement avec quelqu'un qui est catholique et qui est d'une autre région ou même de notre pays. Le caractère, la tournure d'esprit sont, je crois, influencés par les origines. Mais est-ce que vous croyez que les gens qui s'entendent le mieux, c'est à vous que je pose maintenant la question, sont ceux qui ont le même caractère?
Surtout pas.
Est-ce que vous croyez qu'un homme ou une femme, ou que deux amis femmes, ou deux amis hommes, comme nous en avons dans la vie politique, des camarades que nous aimons bien, doivent avoir le même caractère que nous? Non, je pense
les extrêmes
mieux,
se touchent.
Je pense qu'il vaut mieux être complémentaires, et que, alors, on forme des équipes et on s'entend.
Gaston Defray, vous n'avez pas d'enfant?
Non, je le regrette beaucoup.
Et lorsque je disais tout à l'heure, êtes-vous un homme comblé, je pensais à cela.
Oui, je le regrette beaucoup, car j'adore les enfants, j'ai des neveux, j'ai des nièces, que j'aime énormément. C'est une chose qui me manque, c'est vrai.
J'ai l'impression, monsieur le maire, qu'aimant les régates comme vous les aimez, qu'adorant la mer comme vous l'adorez, vous êtes en fait un vrai solitaire, et que votre aventure politique est aussi l'aventure d'un solitaire. Un solitaire qui a été bien accompagné.
Non, je m'excuse, monsieur Chancel. Vous qui êtes si fin et si subtil, vous ne me jugez pas bien. La navigation solitaire est en ce moment à l'ordre du jour, puisque
Chichester
se déroule en ce moment la course transatlantique en solitaire. Je n'ai jamais fait de navigation solitaire. Bien sûr, je suis sorti en mer seul quelquefois. Mais ce que j'aime dans la navigation, d'abord, c'est la compétition. Et la compétition avec un équipage.
À votre stade, vous êtes toujours seul.
Et j'ai un équipage de jeunes. Il faut des garçons solides, musclés. rapide, entraîné. Nous nous entraînons tout l'hiver, à chaque fois que je peux sortir. Et puis quand la saison des régates arrive, nous courons. Et vous ne pouvez pas savoir, comme il est sympathique pour un homme de mon âge, de se trouver avec des garçons beaucoup plus jeunes, qui ont souvent 18, 20 ans, qui sont étudiants, qui me parlent de leur vie, qui réagissent comme on le fait à leur âge, comme on le fait dans leur génération. Et quand la course est finie et que nous avons gagné, ce qui arrive heureusement assez souvent, et que nous commentons les différentes péripéties de la course, vous ne pouvez pas savoir comme c'est agréable, comme c'est sympathique et comme c'est chaleureux. Si bien que je ne me sens pas du tout solitaire, au contraire, je fais partie d'une équipe.
Non, je voulais dire par là que, à la place que vous occupez, vous êtes toujours en solitaire. Vous avez toujours été la grande inconnue de l'échiquier politique. Vous m'avez parlé du bateau, bravo, je sais que vous avez vos amis, mais entre le ciel et la mer, je me demande si vous entendiez bien avec le bon Dieu.
Eh bien, je vais vous dire, quand nous prenons le départ d'une course un peu longue, une course qui dure 3 ou 4 jours, il y a un moment que j'attends chaque fois. C'est le moment où le soleil se couche le premier soir. Et je m'arrange, je décide d'être de quart à ce moment-là. Nous sommes seuls sur la mer en général parce que les bateaux se dispersent assez vite dans le vent. On est coupé de tout. J'interdis qu'on prenne la radio pendant les courses. J'autorise mes équipiers à prendre uniquement les informations sportives. Pour être absolument coupé de toutes mes préoccupations habituelles et de
plus. Vous y arrivez ?
Complètement. Si l'on veut gagner, vous savez, il faut une tension qui ne cesse jamais pendant la course. Si bien que nous sommes seuls sur la mer, oui, le bateau est seul sur la mer, mais moi je ne suis pas seul, je suis avec l'équipage, je prends mon car avec les équipiers et je vais dormir à mon tour. On me réveille à mon tour, on me réveille souvent entre les quarts pour me demander quelle décision il faut prendre. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est tonique, à quel point c'est une bonne chose. Je voudrais ajouter encore quelque chose. Voyez-vous, pour un homme politique, et surtout en France, en Angleterre, je crois que c'est différent, parce qu'en Angleterre, la vie politique est plus respectable, est plus respectée. En France, un homme politique est souvent mal vu, quelquefois même un peu méprisé. Eh bien, il est bon de prendre des risques physiques. Il n'y a pas de grands risques dans la navigation à voile, dans la compétition à voile. Mais c'est souvent une épreuve très dure physiquement, par très mauvais temps, la nuit, on est trempé, secoué. Et il faut tenir si l'on veut gagner. Eh bien, c'est excellent pour le caractère, ça. C'est une très bonne chose.
Et vous en avez besoin ?
J'en éprouve le besoin, oui, c'est vrai. Et dans la vie, ensuite, quand j'ai des épreuves dures, il m'arrive de penser à une nuit en mer où il faisait très mauvais temps, on se demandait si on allait gagner, où on avait déchiré un phoque, ou quelquefois plusieurs, on avait cassé plusieurs choses. Et je pense à cela, et cela me réconforte, ça me donne des forces pour continuer à me battre dans ma vie politique, et parfois pour gagner aussi.
Oui, vous le dites souvent, je suis fait pour gagner.
Non, je ne dis pas que je suis fait pour gagner, je dis que j'aime gagner.
C'est stimulant, en tout cas.
Être fait pour gagner est très... Employer cette expression, c'est être très prétentieux. Ça veut dire qu'on a les qualités nécessaires pour gagner. Moi, je n'ai pas cette prétention. Je dis simplement que j'aime gagner. D'ailleurs, qui n'aime pas gagner ? Dites-moi, qui n'aime pas gagner ? Est-ce que vous n'aimez pas gagner, vous, dans votre métier ? Bien sûr, vous allez mettre un champion de la radio et de la télévision. Qui n'aime pas gagner parmi les sportifs ? Qui n'aime pas gagner parmi
ceux qui font des... Ce ne sont pas les mêmes victoires.
Qui n'aime pas gagner parmi les écrivains ? Tout le monde aime gagner. Plus ou moins. La vérité, c'est que si tout le monde aime gagner, tout le monde n'aime pas se battre. Et qu'il y a des gens qui aiment gagner sans avoir à se battre. Et qu'il y a des hommes qui, au contraire, quand la bataille est commencée, sont tout à fait à l'aise. Personnellement, il m'arrive souvent d'hésiter longtemps avant de prendre une décision. De tourner un peu comme un chien malade. D'être mal à l'aise. Mais une fois que ma décision est prise, et que alors souvent la bataille est engagée, alors je suis heureux. Je suis bien, je me sens bien dans ma peau et je combats avec, je dirais pas une certaine satisfaction, mais ni même avec un certain plaisir, mais vraiment de telle façon que j'ai le sentiment de faire ce que j'ai à faire. Et je crois qu'être énergique ou autoritaire, ça ne consiste pas à prendre une décision tout seul. Ça, je crois que c'est un grave défaut. Ça consiste, une fois qu'une décision est prise, à ne pas céder en cours de route pour l'application.
Mais vous ne voudriez pas que l'on conteste votre autorité ?
Oh, elle a été souvent contestée, mon autorité. Elle le sera encore, sûrement, bien sûr. Vous savez, l'autorité d'un homme politique et surtout d'un maire est fonction de la qualité des choix qu'il fait. Et s'il se trompe trop souvent, son autorité est vite battue en brèche. Il faut éviter de se tromper trop souvent et pour cela, il faut prendre beaucoup d'avis, beaucoup de conseils. Et comme je vous le disais tout à l'heure, une fois qu'on a commencé, ne pas s'arrêter en route, et ça, c'est quelquefois très difficile, car une fois qu'on a commencé à appliquer une décision, tout d'un coup, on aperçoit des aspects de la question que l'on n'avait pas vus. Et on se dit, peut-être que je me suis trompé. Mais si on s'arrête en route, si on hésite, si on revient en arrière, alors on perd sur tous les terrains. Et on n'a plus aucune chance de réussir. Et que je ne parle pas de réussir personnellement. Je veux dire, par exemple, quand on entreprend quelque chose dans une ville, d'atteindre le but que l'on s'est fixé dans l'intérêt de la ville.
Gaston Defer, les succès de l'Olympique de Marseille sont un bon présage ?
Bien sûr, les succès de l'Olympique de Marseille, d'abord, sont un bon présage pour Marseille. Je ne parle pas pour moi.
C'est vous vrai, y êtes intimement lié.
Oui.
D'ailleurs, au moment où Marseille triomphait, on vous voyait toujours à côté des joueurs.
Bien sûr, il y a 6 ou 7 ans, quand M. Leclerc a décidé de s'occuper de l'OM, l'équipe était au bas de la 2e division, et il m'a demandé une subvention très importante. Enfin, il a demandé à la ville de Marseille une subvention très importante. Peu de conseillers municipaux étaient disposés à lui accorder cette subvention. Je l'ai vu, et je dois dire qu'il m'a inspiré confiance. Je pensais que c'était un homme capable de redresser la situation, et j'ai demandé au conseiller municipal, avec beaucoup d'insistance, de lui accorder cette subvention, qui lui a permis, à une époque où il y avait très peu de spectateurs qui suivaient les matchs de l'OM, d'avoir les fonds nécessaires pour commencer à améliorer l'équipe. Et depuis, alors que je ne participe pas de façon active à la vie de l'OM, je ne suis pas à tous les matchs, je ne suis pas un spectateur très assidu. Quand il y a un grand match, quand c'est un match qui compte pour le championnat ou pour la Coupe, j'y vais. Et puis, bien sûr, quand il y a le fameux défilé de l'OM, après la victoire, j'y suis. Et au milieu de cette liesse populaire, de cette joie qui éclate dans les rues,
c'est votre ville qui triomphe.
C'est ma ville qui triomphe, bien sûr. Et alors, je suis heureux pour Marseille.
Et si Marcel Leclerc, président de l'Olympique de Marseille, se présentait contre vous aux élections ?
Oh, il n'est pas exclu, loin de là, qu'il se présente aux élections. Il s'est déjà présenté aux élections et je ne serais pas étonné du tout qu'il se présente encore aux élections. C'est son droit le plus absolu. Il est président d'un club. Je l'ai aidé parce que c'était l'intérêt de Marseille. Et si demain, il veut se présenter aux élections, il est tout à fait libre de le faire. Je n'en voudrais pas du tout.
Gaston Defer, on téléphone et un auditeur demande pourquoi, dans le cadre de l'environnement, il y a si peu d'espace vert à Marseille.
Ah, ça c'est la faute de nos ancêtres.
Ah, ce n'est jamais votre faute.
Oh si, souvent, voilà, bien sûr. Je vais vous dire quelle part de responsabilité j'ai là-dedans. Marseille est la plus ancienne ville de France, puisque vous le savez comme moi, elle a été fondée 600 ans avant Jésus-Christ par les Grecs, bien avant Paris.
J'ai l'impression qu'il y a des trésors.
Les Parisiens là, qui sont dans la capitale, qui dominent la France...
Vous le dites d'une manière méprisante. Hein.
Non, je le dis d'une manière qui, si je me laisse aller, c'est une manière violente.
Laissez-vous aller.
Et une manière de protestation contre cette domination que nous impose Paris. Alors Marseille, j'y reviens, est une ville très ancienne, qui a été démolie et reconstruite souvent, mais dans le centre, est fait de rues extrêmement étroites, et dans lesquelles... dans le centre dans lequel il y a très peu d'espace vert. Le reproche que je peux me faire, c'est de ne pas avoir compris plus tôt qu'il était indispensable de créer des espaces verts. Dans le centre, c'est extrêmement difficile car il faudrait démolir des immeubles qui existent, qui sont habités, où il y a des commerces. Je n'ai pas le droit de le faire. En plus, ce serait très cher car il faudrait exproprier. Dans la banlieue, je l'ai fait. J'ai fait acheter à la ville de grandes propriétés qui sont devenues des parcs. Et j'ai pour l'avenir de très grands projets comme l'extension de la plage sur la mer. Nous allons remplir 50 hectares et agrandir l'espace vert que représente déjà le parc Borély et le champ de course qui sera maintenu là. Nous allons aménager les îles du Frioul. Nous avons commencé les plantations d'arbres aux îles du Frioul. Nous allons faire beaucoup de choses dans ce domaine. Mais il n'est pas douteux que Marseille a dans ce domaine-là beaucoup de retard. Quand on fait des comparaisons avec d'autres villes, en particulier avec les villes étrangères, on voit que le nombre de mètres carrés par habitant est tout à fait insuffisant.
Gaston Defer, revenons à vous. On dit souvent, je l'ai lu ce matin, que vous aviez l'allure d'un Anglais, le sérieux d'un Allemand, le dynamisme d'un Américain et les faiblesses d'un homme qui se cherche.
Ah, Que de compliments.
Oui, mais les faiblesses d'un homme qui se cherche...
Je dois dire que j'accepte les faiblesses d'un homme qui se cherche après tous les compliments qui ont précédé.
Bon, alors, vous êtes d'accord.
Bilan, je trouve que le bilan est largement positif. Et puis, se chercher à mon âge, mon Dieu, je dois dire que c'est un phénomène assez rare. Je risque de ne jamais me trouver.
Oui, il y a une chose qui me passionne, c'est ce que vous disiez sur la province. Je vous ai senti tout à fait méprisant à l'égard de Paris.
Non, pas méprisant, coléreux.
Oui, vous estimez que la province est traitée en pays sous-développé.
Tout à fait. Tout à fait. La France est très centralisée. Et quoi qu'en dise le gouvernement, il n'a rien fait pour une véritable décentralisation. On a déconcentré, c'est-à-dire que le gouvernement a transmis une partie de ses pouvoirs à des fonctionnaires qui sont sous ses ordres et qui ne peuvent agir qu'avec l'autorisation du gouvernement. Mais ce gouvernement... manque ce pouvoir, ce régime, manque à la fois de confiance dans les Français et de confiance en lui.
Lorsque vous serez au pouvoir, sera merveilleux.
Si demain nous arrivions au pouvoir, eh bien, je peux vous dire une chose, par exemple, c'est que je demanderai que la tutelle sur les collectivités locales soit immédiatement et complètement supprimée. Et qu'on remplace cette tutelle a priori par un contrôle a posteriori extrêmement sévère, allant jusqu'à, par exemple, la révocation des maires. Et vous voyez quel changement cela apporterait. En ce qui concerne la région, je demanderais qu'il y ait des assemblées élues et responsables, et non pas le semblant d'assemblée que le gouvernement veut créer. Je pense que c'est indispensable, et que si on ne le fait pas, la France mourra asphyxiée. Et croyez-moi, c'est très grave. Et je voudrais vous raconter une anecdote. Je vous disais que ce gouvernement, ce pouvoir, ce régime n'avait pas confiance dans les Français, qu'il se méfiait d'eux, qu'il voulait maintenir sous sa tutelle centralisée, autoritaire. Et je voudrais ajouter autre chose. La vérité, c'est qu'il n'a pas confiance en lui.
Vous disiez cela il y a quelques années.
Il y a quelques années de cela, j'avais lu dans un hebdomadaire deux interviews. L'une de Pierre Mendès France et l'autre de Bévan. Je savais qu'ils ne s'étaient rencontrés que quelques heures et que Bévan n'avait pas eu le temps de relire ses déclarations. Pour ne rien vous cacher, c'était dans l'Express. Et j'en ai parlé avec Françoise Giroud, qui est une femme tout à fait remarquable. Alors je lui dis, Bévan a vraiment très grande confiance en vous pour avoir accepté de ne pas relire ses déclarations. Et Françoise Giroud, qui est très intelligente et très fine, très subtile, m'a dit, je crois surtout qu'il a très confiance en lui. Eh bien... ce gouvernement, s'il avait confiance en lui, aurait confiance dans les Français.
Très franchement, Gaston Defferre, vous pensez qu'un jour, vous serez au pouvoir? D'abord, il y a une chose, pardonnez-moi cette question qui va vous paraître peut-être un peu naïve. Vous acceptez d'être l'autre Mitterrand?
Je ne sais pas ce que vous voulez dire par l'autre Mitterrand. Ce que je peux vous dire que j'accepte...
Il y a toujours eu Gaston Defferre.
Non, ce que je peux vous dire que j'accepte, et ça me paraît tout à fait normal, c'est d'être dans le rang. J'ai été à un certain moment le numéro un.
C'est de l'humilité.
À l'époque, non, c'est normal. C'est ça le sens de l'équipe, le sens du travail. À une certaine époque, en 1964, 1965, au moment de l'Horizon 80, au moment de M. X, dont vous parliez tout à l'heure, j'ai été le numéro un. François Mitterrand, à ce moment-là, était à mes côtés, avec beaucoup de loyauté. Il est maintenant notre leader. Il a certainement des qualités pour cela que je n'ai pas. C'est un orateur de très grand talent. C'est un homme qui a un grand sens de l'analyse politique. Eh bien, moi, je suis un de ceux qui travaillent avec lui. Je ne sais pas quel numéro j'ai, je ne cherche pas à le savoir, et je suis heureux de faire partie de cette équipe. Je suis content. Je ne suis pas comme certains hommes politiques que je connais, qui sont aigris, malheureux, envieux, parce qu'ils ne sont pas le numéro un. Ce n'est pas mon cas, moi. Vous me voyez, je suis souriant, je suis content.
Il n'y a pas tellement longtemps que vous avez... ce sentiment-là. Il y a encore 2-3 ans, vous étiez le numéro un. Et vous vouliez rester le numéro un.
Mon Dieu...
Vous êtes le père Joseph, en fait.
Mon Dieu, non. Il arrive qu'on soit le numéro un. Et puis, c'est comme dans une épreuve sportive. Les choses changent, on ne l'est plus. Et ce qu'il faut, c'est savoir l'accepter. Et vous, dans la vie politique comme dans la vie tout court, je crois qu'il est très important d'être heureux. Ça prouve qu'on est équilibré. Eh bien, en ce moment, je ne suis pas le numéro un. Je vous le dis, je ne sais pas quel numéro je suis. Je suis sûr que je ne suis pas le numéro 1, ça c'est une évidence.
Vous êtes à la droite de Mitterrand.
Je le proclame. Non, voyez-vous, non, non. Regardez par exemple les photos qui ont été prises récemment lors de nos discussions. C'est notre ami Pierre Mauroy qui est à la droite de Mitran. Moi, je suis juste à gauche. Parce que nous sommes des amis, parce que je suis président du groupe parlementaire, mais que demain, par exemple, je ne sois plus président du groupe parlementaire, peut-être ne serai-je même plus à sa gauche. Bien, je suis content de participer à l'action qu'il mène, d'être au courant de ce qu'il fait. Ça m'intéresse, bien sûr. Mais je n'éprouve vraiment aucun regret de ne plus être le numéro un. Aucun.
Très sincèrement, Gaston Lefer, vous êtes très satisfait de cette alliance avec les communistes.
Bien, je vais vous dire, je pense que c'était indispensable.
C'était indispensable pour le jeu politique.
C'était indispensable pour plusieurs raisons. Ou après, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Si nous avons encore 5 minutes, je vais vous le dire. D'abord, c'était indispensable parce que nous voulons changer les choses. Ce régime est au pouvoir depuis longtemps. Vous voyez comment ça a tourné, plutôt mal. Sur le plan économique, la vie ne cesse d'augmenter. La crise monétaire n'atteint pas le franc en ce moment, mais elle l'a atteint il n'y a pas si longtemps.
Giscard d'Estaing vous dirait le contraire.
Sur le plan... Oui, nous sommes expliqués l'autre jour à l'Assemblée là-dessus.
Je vous ai entendu.
Avec un peu d'animation. Sur le plan moral, je crois que c'est très très important cela. Nous allons de scandale en scandale. Je n'aime pas exploiter les scandales, mais je n'aime pas pour mon pays. Même si ça nous sert politiquement, nous, les gens de l'opposition, je n'aime pas pour mon pays que la France donne l'impression... d'être une nation dans laquelle éclatent successivement toute une série de scandales.
Oui, mais ceux qui ont fait éclater les scandales, vous pensez qu'ils sont d'une pureté exemplaire?
En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans le passé, si un gouvernement avait été atteint par un aussi grand nombre de scandales que ceux qui ont éclaté ces derniers mois, ce gouvernement aurait été renversé.
Donc c'est sa force.
Et qu'on aurait choisi d'autres hommes. Non. Parce que le régime est tel que le gouvernement peut rester en place, mais vous savez, il y a une sorte de seuil invisible dans ce domaine, et quand il est franchi, les Français ne croient plus à rien. Et à l'heure qu'il est, j'ai l'impression que le gouvernement peut faire ce qu'il veut, il n'a plus de crédit. Alors vous nous avez parlé des communistes. Bon, pour revenir, oui, je ne veux pas chercher à éluder la discussion.
Je vois que vous y avez pensé.
Pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, pour battre cette majorité qui s'est installé au pouvoir, qui considère que la France est sa propriété, qui en use et qui en abuse, vous le savez comme moi, je ne parlerai pas de l'ATF, vous connaissez la question mieux que moi.
Donc je suis d'une liberté totale.
Vous,
la
oui,
preuve, vous voyez, je vous écoute.
Oui, oui, vous, personnellement, oui, je veux d'ailleurs dire que depuis que Chaban-Delmas est là, il y a une certaine libéralisation de l'ATF. Enfin, ce gouvernement considère tout de même que la France est sa propriété. Et je pourrais citer beaucoup d'exemples précis.
Si oui. Vous étiez au pouvoir, Gaston Defer, on pourrait parler librement?
Bien sûr, et complètement. D'ailleurs, quand nous avions été, vous le savez comme moi, on parlait tout à fait librement. Eh bien, nous avons besoin d'être les alliés des communistes. D'autre part, eux et nous voulons changer un certain nombre de choses, et notamment sur le plan économique et sur le plan social. Il était donc naturel que nous nous entendions. Alors, le grand reproche que l'on nous fait, je le sais, c'est de dire c'est l'alliance du pot de terre et du pot de fer. Et j'ai entendu l'autre jour un quelconque ministre, M. Fontanet, je crois, dire, comme toujours, les socialistes se font dévorer par les communistes. Ça prouve que M. Fontanet ignore l'histoire.
C'est vous qui dites.
Ah oui, mais non, je l'affirme et je le démontre. Car, si vous regardez ce qui s'est passé en Europe, même dans le monde, les communistes n'ont dévoré les socialistes que dans les pays qui, par le traité de Yalta, ont été mis sous l'autorité ou sous l'influence de l'Union soviétique. En fait, dans les pays où se trouvait l'armée rouge. Dans les pays occidentaux, il y a eu souvent des gouvernements avec des socialistes et des communistes en France, en Italie, en Belgique, en Finlande, voisin immédiat de l'Union soviétique. Jamais les communistes n'ont dévoré les socialistes. C'est même produit un phénomène inverse. Et en ce qui nous concerne, nous sommes parfaitement loyaux et je ne souhaite donc pas que ça se produise, ce sont les socialistes qui, dans la plupart des cas, sont restés au pouvoir, et même dans certains cas, ont chassé les communistes. Par conséquent, ils n'ont pas été dévorés par les communistes. Ça, c'est une légende. C'est une légende que l'on fait courir pour faire peur.
Vous n'avez pas
des hommes politiques qui manquent un peu d'imagination dans ce pays. Ils ont constaté en 68 que la peur leur avait amené un succès électoral inattendu. Il se doute qu'il faudra trouver un peu autre chose qu'on se présente lui, qu'il ne suffira plus des vitrines cassées ou des voitures brûlées, des étudiants révoltés. Alors ils se demandent comment ils peuvent susciter la peur, car ils aiment ce sentiment qui leur donne à eux une impression de sécurité. En réalité, c'est eux les peureux.
Mais vous faites peur, vous aussi, parce vous allez gagner.
Non, mais j'espère bien que nous allons gagner. Parce qu'ils ont tort d'avoir peur. Ils devraient se battre au lieu d'avoir peur. S'ils ont peur, c'est que nous sommes déjà à moitié vainqueurs.
Gaston Defer, vous êtes à l'aise dans l'opposition?
Oui.
Vous ne pourriez pas être dans une majorité?
Je suis à l'aise dans l'opposition, je serai à l'aise dans la majorité.
Vous ne pouvez pas être dans une majorité, alors vous ne pouvez pas gagner, car si vous gagnez, vous êtes forcément dans une nouvelle majorité.
Eh bien, si nous gagnons, je serai dans une majorité. Dans la majorité, nous avons beaucoup de projets à réaliser. Nous avons eu le temps d'y réfléchir, de les étudier très sérieusement, et nous avons l'intention de les mettre en œuvre.
Vous êtes fait pour gouverner?
Oui, nous aimons, je suis un de ceux, parmi mes amis, qui aiment agir. Et qui aiment non seulement agir, mais je m'excuse de le dire, mener les choses à bien. Commencer, poursuivre et mener les choses à leur terme. Comme maire, je vous l'ai dit, j'aime construire des écoles, des hôpitaux, des logements. Et comme ministre, j'aime engager une politique et l'amener à son terme. Et si demain nous étions au gouvernement et majoritaire, croyez-moi, nous avons toute une série de projets que nous réaliserions dans l'intérêt de la France.
Gaston Defer, vous m'avez dit tout à l'heure que vous seriez candidat en 73.
Comme député, oui.
Comme député, que vous pensiez à une retraite politique.
Mais ce n'est pas incompatible.
S'il fallait être candidat à la présidence de la République, vous le seriez encore?
Non, certainement pas.
Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas content
parce que
de l'échec?
Non, parce que je considère que des hommes comme François Mitterrand sont plus qualifiés que moi pour être candidat à ce poste. Les choses ont évolué, elles ont changé, il faut en tenir compte. Un homme politique conséquent doit tenir compte de l'évolution des faits. Et par conséquent, je ne souhaite pas être candidat à un poste comme celui-là.
Vous aimez la province, Gaston Defer?
Beaucoup. J'aime la province parce que...
Parce qu'elle a gardé son climat.
D'authentique et de vrai. Je vais à Paris...
Vous savez que les Parisiens sont tous des provinciaux, à peu près.
Oui, mais... Quand ils habitent Paris, ils sont atteints par cette espèce de maladie très contagieuse et dont les hommes politiques doivent se garder s'ils ne veulent pas perdre leur force.
Ils sont contaminés?
C'est le parisianisme.
C'est un mot qui fait mal.
Oui, en réalité, il y a un milieu, il y a un certain nombre d'hommes politiques, de journalistes, de médecins, d'hommes d'affaires, qui se voient, qui s'invitent à déjeuner, à dîner. À Paris, c'est très curieux.
Vous sortez à Paris?
Jamais. Bon. Jamais, j'aime travailler. Le soir, tranquillement, je pense que ce qui est fatigant dans la vie, ce n'est pas de travailler. En tout cas, personnellement, ça ne me fatigue pas. C'est de se bousculer ou de s'énerver. Être obligé de quitter son bureau, on tombe à 8 heures du soir pour aller dans un dîner, sans avoir fini tout ce qu'on a à faire, je trouve cela épuisant. Rester à son bureau pour travailler jusqu'à 10 ou 11 heures du soir, je trouve que ce n'est pas fatigant. Alors, je n'aime pas travailler. Alors, vous parliez de Paris et de la province. Je vais y revenir parce qu'il s'agit moins de moi que d'un jugement porté sur une... situation qui oppose la France, enfin deux parties de la France. À Paris, quand on se laisse prendre par ce milieu, peu à peu, je crois qu'on perd de vue les véritables réalités. Les Parisiens sont plus brillants que nous, les provinciaux. Ils sont apparemment, je dis, plus cultivés, plus au courant des dernières pièces de théâtre.
Vous le pensez vraiment ?
Oui, bien sûr. D'abord, le théâtre est à Paris, essentiellement. Nous avons ici, bien sûr, quelques troupes, mais il y a à Paris beaucoup plus de théâtre proportionnellement que dans une ville de province comme Marseille. Toute proportion gardée. Les films passent d'abord à Paris. Les grandes premières sont à Paris. Vous êtes un provincial aussi, mais...
Ah, un provincial type.
Pour employer une expression marseillaise, quand vous avez réussi, vous êtes monté à Paris.
Oui, justement, mais vous êtes responsable aussi de cette montée à Paris.
La consécration, c'est à Paris qu'on l'obtient en France.
Si quelqu'un vient vous voir ici à Marseille et vous dit « Je voudrais réussir à Paris, je voudrais faire quelque chose d'important à Paris », vous serez le premier à le recommander à Paris, à l'installer à Paris.
Bien
donc
non,
vous êtes tous responsables.
Bien non, je lui dirais, et je le dis souvent à des jeunes gens qui viennent me demander conseil, je leur dis « Il y a beaucoup à faire en province, de très belles carrières, et vous serez plus heureux en province qu'à Paris. Vous ne serez pas bousculé dans la vie, vous aurez le temps de réfléchir, vous aurez le temps de lire toutes sortes de choses qu'il est plus difficile de faire à Paris qu'en province.
Quel est votre défaut le plus cruel, Gaston Defer? Vous m'avez dit que vous n'aviez aucune qualité, alors...
Non, je ne vous ai pas dit que j'avais aucune qualité. Non, non, je ne dis jamais ce genre de choses, parce que je ne le pense pas d'abord.
Voilà.
Mon défaut, le plus cruel, je crois que je suis un mauvais orateur. Je crois que je pourrais être beaucoup plus intelligent. Je crois que je suis trop travailleur. Oui, il m'arrive de rencontrer des gens qui me disent qu'ils travaillent beaucoup. Je leur dis, vous ne croyez pas, vous m'étonnerez. Vous m'étonneriez si vous me disiez que vous faites la même chose que moi en beaucoup moins de temps. Alors, cela, je crois que cela m'étonnerait. En vérité, je suis un homme moyen. Et c'est pourquoi j'ai de la peine à vous répondre quand vous me demandez quel est mon principal défaut, parce que j'ai beaucoup de défauts et quelques qualités moyennes. Il y a des hommes qui sont fulgurants dans un domaine, des orateurs éblouissants, des intelligences sous certains aspects qui vous frappent. Moi, ce n'est pas le cas. J'ai une somme de petites qualités et une somme de petits défauts. Je suis un homme moyen, mais qui travaille beaucoup et qui a beaucoup de volonté. Alors ça me permet de faire un certain nombre de choses.
La vie vous a tout donné, de grandes réussites, de beaux échecs, dont vous avez fait d'ailleurs des réussites.
Non, on ne peut pas dire que j'en ai fait des réussites, j'ai essayé d'en tirer des leçons. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas, après un échec, se désespérer. Il faut au contraire essayer d'en tirer la leçon et, sur le plan moral et intellectuel, d'en tirer le bénéfice. C'est ce que j'ai essayé de faire quand j'ai eu des échecs. Je me rappelle, je vais vous raconter une autre anecdote qui vous amusera. Après ma défaite électorale en 58, la première, j'étais allé passer 8 jours à Paris. Je faisais le cinéma un jour. Et j'ai rencontré dans ce cinéma un homme politique très très brillant. Très connu. Nous étions assis l'un devant l'autre par hasard. Et le film, par hasard aussi, était l'histoire d'un maire dans une nation étrangère, en Amérique je crois, qui étant battu aux élections, était tellement désespéré qu'il en mourait. Moi, je trouvais ça ridicule. Je l'ai dit à mon voisin de devant, qui lui, alors qu'il est beaucoup plus brillant que moi, était beaucoup plus affecté que moi. Et plus affecté par son échec, et plus affecté par le film. Alors que moi, j'avais au contraire cherché à tirer les leçons de ma défaite et essayer de m'améliorer. Alors, vous voyez, chacun réagit avec son caractère.
On reconnaît là l'homme ambitieux que vous êtes. Et c'est peut-être...
Bien sûr, j'ai l'ambition. Vous savez, je crois qu'il n'y a pas d'homme politique sans ambition. Avant que nous commencions cette émission, nous avons un peu parlé, et je crois que je ne commettrai pas d'indiscrétion. Quand je vous ai dit, alors que vous me demandiez si ce que je faisais me plaisait, que pour être élu, il fallait d'abord être candidat. J'ai connu dans ma vie beaucoup d'hommes politiques, ministres, occupants de hautes fonctions, qui se plaignaient et qui disaient « c'est épouvantable, je mène une vie, c'est atroce ». Vous savez, s'il n'a pas été candidat, il n'aura pas été élu. Alors, pour être un homme politique, il faut un minimum d'ambition. Si on n'a pas d'ambition, on ne peut pas être un homme politique. Et j'ajoute qu'il faut avoir de l'ambition pour soi, il faut en avoir pour les tâches que l'on accomplit. Moi, j'ai beaucoup d'ambition pour Marseille, par exemple, et je crois que c'est une bonne chose.
Gaston Defer, permettez-moi de demander l'heure. Il est 6 heures ?
Moi, j'ai 6 heures passées.
Eh bien, nous sommes allés au bout de cet entretien. Je vous remercie, Gaston Defer. Je rappelle que nous étions ce soir en direct de Marseille. Et je remercie la station de Marseille de nous avoir si gentiment accueillis.